Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et pour débuter la semaine, écoutez, autant la débuter en trombe, avec un super débrief. Et ce soir, nous avons Pascal Samama. Salut Pascal.
Salut François.
Journaliste à BFM Business.
Évidemment.
Tout va bien ?
Tout va très bien pour l'instant.
Nickel. Pour l'instant, tu vas voir, ça va bien
se passer. Je connais pas le futur, j'ai pas une boule...
Oui, c'est vrai. Les GAFAM non plus ne connaissent pas le futur.
Les GAFAM non plus.
On va en parler dans un instant.
Ils commencent à l'entrevoir.
Oui, ils commencent à voir à quelles sauces ils vont être dégustés. Nous avons aussi Marion Moreau sur le plateau Tech & Co ce soir. Salut Marion.
Salut.
Journaliste et fondatrice d'Hors Normes Média. Et à tes côtés, le meilleur d'entre nous, je suis désolé de le dire. Ça peut peut-être en vexer quelques-uns sur ce plateau.
Ah, pas du tout.
Mais c'est Cédric Ingrand.
C'est vrai.
Non, mais attends, je suis pas venu pour rien. Je viens de faire ma soirée.
Ça y est, c'est bon, tu peux partir maintenant.
Ben voilà, merci à tous.
Cédric Ingrand, journaliste, vous avez entendu sa voix et vous l'avez vu à l'époque sur TF1 et LCI. Et aujourd'hui, fondateur de Heavyweight Studio, directeur général de cette boîte qui fait des super podcasts.
Merci, voilà. Chef.
Alors. Plein de titres d'actualité intéressants. Bouygues Télécom qui rafle la Poste Mobile. Alors, c'est un petit sujet, mais c'est intéressant parce que vous savez que dans cette bataille des prix et des abonnés, eh ben, ça va faire du bien à Bouygues d'en rafler quelques millions supplémentaires. On parlera aussi de Gemini qui arrive sur iPhone en France, avec lequel on peut parler. J'ai testé, je vous donnerai un petit peu mon avis. Spoiler, c'est pas terrible. Mais pour débuter, j'aimerais qu'on s'intéresse à l'actualité brûlante qui a été annoncée par Donald Trump. C'était hier, un anti-GAFAM, donc bientôt à la tête du régulateur américain des télécoms aux États-Unis. Trump vient de désigner Brendan Carr pour diriger la FCC. Cet ancien avocat ultra-conservateur veut démanteler ce qu'il a décrit comme un cartel de la censure imposé par les géants de la tech. Rien que ça. Raphaël Couder, et on revient juste après.
C'est un guerrier de la liberté d'expression. Voilà comment Donald Trump qualifie Brendan Carr, ce républicain, déjà commissaire de la Commission fédérale des communications depuis 2017, et connu pour être un critique féroce des Big Tech. Il n'a d'ailleurs pas tardé à donner le ton, dénonçant quelques heures seulement après sa nomination le rôle, selon lui, central des GAFAM dans l'essor de la censure. Sa feuille de route consistera donc à reprendre le contrôle sur ses entreprises sur ce plan-là, notamment en limitant leur pouvoir de modération des contenus que les conservateurs perçoivent comme trop woke, une stratégie qu'il a lui-même théorisée. Il est l'auteur du volet télécom du fameux projet 2025, le programme de Donald Trump pour remodeler l'État fédéral américain. Brendan Carr est par ailleurs soutenu par Elon Musk et pourrait faciliter l'octroi de subventions publiques à Starlink, son entreprise de communication par satellite, pour favoriser l'accès à Internet dans les zones rurales américaines.
Brendan Carr, donc, c'est un guerrier de la liberté d'expression, c'est ce qu'a affirmé Donald Trump donc dans son communiqué annonçant cette nomination, qui a été d'ailleurs applaudi par le milliardaire et propriétaire de X, Elon Musk, hein, bien évidemment, parce que Brendan Carr, a quatre objectifs principaux qu'il aimerait déployer à partir du début de sa nomination, hein. Rappelons que ce sera en janvier prochain, reprendre le contrôle des Big Tech. Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de décrypter tout ça. Promouvoir la sécurité nationale, libérer la prospérité économique et garantir la responsabilité et la bonne gouvernance de la FCC, toute puissante FCC, qui commence sur ce sujet. Marion, allez, on y va.
Alors, moi, je décrypte ce sujet surtout sur le volet télécom. On va parler des big tech et de la régulation de ces géants de la tech.
FCC, c'est quoi? C'est pour qu'on comprenne, c'est un peu l'ARCOM.
C'est, oui.
Ouais, c'est l'autorité de régulation.
En plus puissant. En plus puissant. Enfin, à l'échelle d'un pays comme les États-Unis.
Ouais. Et il y a 10 jours, j'ai écrit mon premier article sur le premier conflit d'intérêts qui serait celui d'Elon Musk, puisqu'on va assister à une série de conflits d'intérêts inédits dans l'histoire des États-Unis. Et globalement de la politique et de la technopolitique. Le premier conflit d'intérêts que j'ai tout de suite décelé il y a 10 jours, c'est les télécoms américains. Pourquoi ? Parce que Joe Biden, et même avant d'ailleurs, Obama avait mis en place un programme gigantesque pour connecter les zones rurales aux États-Unis. Dans le pays, évidemment, sur lequel il n'y a pas assez de couverture, c'est un marché qui est trusté par 3-4 opérateurs, plus des milliers de petits acteurs, les fameux ISP, les fournisseurs d'accès Internet. Mais globalement, c'est un pays qui n'est pas très bien couvert, sur un marché qui est compliqué à comprendre, les télécoms très, très, très monopolistiques. Et il y a un enjeu...
qui coûte des fortunes, hein, par rapport à nous.
Qui coûte des fortunes, ça ne marche pas bien, bref. Et là, quand j'ai vu l'élection de Trump et, évidemment, le programme de nettoyage économique que va porter Elon Musk.
Elon Musk, ouais.
Tout de suite, on a fait le lien avec les 2-3 contacts que j'ai dans les télécoms aux US sur le fameux programme BEAD, qui est ce programme de broadband, c'est-à-dire de couverture globale des zones aux États-Unis, qui est un marché gigantesque parce qu'il faut amener de la fibre optique. Là où, évidemment, et j'en reviens au conflit d'intérêts d'Elon Musk, Starlink arrive comme un...
Eh oui.
Un champion tout trouvé,
bien
c'est
sûr.
Magnifique. On va connecter toutes les zones rurales.
Et plus besoin de fibre optique.
Et donc
ça coûtera moins cher.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire comme première démonstration du fameux nettoyage de compte pour lequel l'agence a déjà été créée, notamment avec Elon Musk, qui va être co-présidé par Elon Musk? Bah, c'est ça. On va faire économiser, c'est magique, des milliards sur ce programme qui s'appelle BEAD, et on va mettre du Starlink. Ça, c'est le premier conflit d'intérêt qui aujourd'hui est derrière la nomination de ce monsieur.
Alors, ce n'est qu'une supputation, hein. On verra bien ce qui va se passer, mais c'est très intéressant.
C'est une voie royale.
Parce qu'il faut d'abord que Musk soit nommé. Trump n'a pas réussi son espèce de carambouille qui aurait consisté à faire fermer le Sénat le temps de nommer ces gens. Parce que ces gens doivent passer devant une commission sénatoriale pour être confirmés à leur poste.
Bien sûr.
Et en gros, il disait, si vous voulez être patron du Sénat, il faut que vous acceptiez de mettre la clé sous le paillasson pendant quelques semaines, le temps que je nomme tout le monde. Ça n'a pas marché, son candidat n'a pas gagné. Bref, donc, je ne sais pas si Elon Musk a envie de passer 10 jours devant une commission sénatoriale. Donc, ça, c'est à voir. Mais plus largement que ça, il arrive parce que lui va rétablir la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Et là, on se gratte la tête en disant, qu'est-ce que veut-il dire par là? Eh bien, il a quand même une idée très précise de la liberté d'expression. Oui. Ça fait des années que les conservateurs américains se plaignent en disant, nous sommes maltraités sur ces réseaux. Alors, je sais pas, moi, quand on y va, on a l'impression de les entendre, pourtant, beaucoup. Et puis, on a eu même des choses objectives sur les élections en 2016, où on les entendait fort, haut et clair, et ils avaient bien tiré parti des capacités de ciblage, de publicité, etc., etc. Mais voilà, ça reste une espèce de mime dans le monde conservateur américain. En fait, ces réseaux sociaux sont historiquement aux mains de Californiens qui sont donc comme des gens de Berkeley qui doivent fumer des pétards, ce qui est pas le cas, hein, Mark Zuckerberg, enfin bon bref. Mais voilà, on les combat comme une espèce d'ennemi idéologique et pas comme une plateforme sur laquelle on s'exprime a priori sans grande limite. Donc voilà, lui veut faire place nette, mais place nette de quoi, comment? Ça va être un petit peu compliqué. Enfin, il y a un combat idéologique qui est plus un combat idéologique qu'un combat au service du consommateur, de la vie privée ou de toutes ces choses qui n'ont finalement plus cours à la FCC.
Donc ça va être intéressant de voir parce que il est par exemple pour la neutralité technologique dans le domaine de la bande passante, c'est ce que tu expliquais. Mais ça veut dire quoi? En fait, il aimerait mettre à armes égales Starlink avec les fournisseurs d'accès à Internet traditionnels. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que Starlink peut par exemple alimenter un pays entier en connexion Internet haut débit, sachant que c'est des satellites? Ils ont des bandes passantes qui sont quand même malgré tout limitées, ce qui n'est pas le cas avec la fibre optique.
Bien sûr.
Si ça tombe en rade, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je veux dire, ça pose plein de questions.
Bah, quelles questions se posaient avant? Marion le disait bien, c'est le télécom là-bas, c'est un secteur qui est à la fois très monopolistique et très morcelé.
Ouais.
Et donc, ils ont une infrastructure qui, disons-le, est vraiment pas terrible. Mon anecdote préférée, elle date un peu, ça date de l'époque du lancement de l'iPad, le premier iPad, il y avait une puce 4G à l'intérieur, je prends le train qui descend toute la Silicon Valley, à un moment j'ai plus de réseau, je lève les yeux, je suis à Menlo Park, à l'épicentre du capital risque américain, et il n'y a pas de réseau.
Il n'y a pas de réseau.
Tout est dit. La fameuse histoire, c'est quand l'iPhone 3G est sorti,
oui.
Il n'y avait pas de 3G dans l'Apple Store de San Francisco, il a fallu que Steve Jobs appelle le CEO d'AT&T, qui ont en urgence déployé une antenne. Donc l'infrastructure télécom aux États-Unis, c'est quand même quelque chose. On vit, nous, dans une espèce de luxe feutré, qu'en plus on ne paye pas cher.
Mais c'est un marché à 443 milliards quand même l'année dernière. Donc si Starlink arrive à prendre ne serait-ce que 1% de ce marché, c'est génial pour lui.
Pour la petite anecdote, 2007, donc le premier iPhone sort en Edge. Alors que nous, on était déjà en 3G, rappelez-vous, à l'époque. Là, je m'adresse aux plus vieux d'entre nous. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, la 3G n'existait pas. La connexion Internet, c'était Edge. Et d'ailleurs, le réseau d'AT&T était tombé à l'époque, quand les iPhones avaient commencé à être mis en route, parce que, bien sûr, imaginez un réseau Edge avec des millions d'iPhones qui se connectent dessus. Pascal, sur ce sujet, donc, de Brendan Carr.
Moi, j'ai envie de dire quand même que Musk et Trump, ensemble, ils sont pour la liberté d'expression, la leur, et certainement pas celle des autres. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est essayer d'arranger une espèce, d'organiser un système qui va arranger Trump parce qu'il va pouvoir canaliser ses ennemis. Il a quand même des comptes à régler avec Zuckerberg via Facebook, avec Google via le patron de Google, bref, avec tous les GAFA, via aussi Bill Gates, ils s'entendent pas tellement bien, avec Apple.
Oui.
C'est pas la folie non plus.
Tim Cook n'est pas un pro-conservateur.
Non, c'est pas...
pas tant.
Tim Cook a été dans les premiers à envoyer un message de félicitations à Donald Trump, quand même.
Tout le monde, hein.
Par politesse, hein.
Oui, Jeff Bezos aussi.
Ouais. À différents niveaux, oui.
Par politesse. C'est qu'il voit
Bezos,
bien, il sent bien.
Bezos, c'est le tartines, quand même. Hein,
c'est... Non, c'est Zuckerberg qui risque de passer un mauvais quart d'heure, non?
Parce oui,
je crois
lui
que
en
Trump
premier.
Le déteste. Enfin, je crois qu'il y a, un contentieux entre eux.
Et donc, ce qu'ils vont tenter de faire, à mon avis, et là, je rejoins
Marion,
évidemment, c'est qu'ils vont avoir la tentation de démanteler ces groupes pour les rendre de moins en moins puissants, parce que la puissance de Google ensemble, la puissance de Meta ensemble, peut faire des concurrents sérieux à Starlink, évidemment.
D'accord.
Et là, en démantelant, ils vont donner un avantage certain à Elon Musk face à ses concurrents. C'est évidemment ça.
Mais excuse-moi.
Vas-y, Marion.
Juste un dernier point quand même, parce que ces acteurs-là, faut pas oublier que ce sont ceux quand même qui financent tous les câbles sous-marins à l'échelle du monde, qui financent énormément de petits archipels stratégiques, notamment dans la région de l'Asie-Pacifique. C'est les échos que j'ai eus aussi récemment.
Ils ont le contrôle de la communication
et de
l'internet.
Ils ont le contrôle. En fait, ils arrivent à plusieurs. Donc là, il y a quand même un jeu de business derrière qui est très important au-delà des effets d'annonce de on va réguler tout le monde, on va mettre tout le monde au pas, etc. Il y a quand même derrière une logique militaro-industrielle qu'il faut pas nier et qui est ultra importante dans des moments de tension comme autour de Taïwan ou des Philippines. Et donc, c'est quand même eux qui sont quand même en première ligne aujourd'hui des aspects géopolitiques de ces grands business-là.
C'est à croire quand même que Trump, en faisant les annonces, parce qu'il n'y a pas que Brennan Carr qui pose problème, il y a un tas de personnes qu'il a nommées à des postes à la défense, à la santé, un peu partout, qui posent problème. On dirait des pranks, on dirait qu'il est en train de provoquer la contestation, qu'il est en train d'énerver le monde pour peut-être se victimiser, mais peut-être changer son fusil d'épaule au bon moment pour dire « Regardez, je vous ai quand même écouté, ouais, j'ai peut-être été... » Il y a une stratégie de communication qu'on n'arrive pas encore à déterminer, mais qui est certaine.
Eh bien, faut pas oublier que tous les gens qui étaient dans la première administration Trump, ils ont tous disparu. Mm-hmm. Ils sont finis en prison, ils ont fini disgraciés. Il y avait déjà des papiers la semaine dernière qui disaient, avec des gens de l'entourage de Trump, qui disaient, Musk, il en fait beaucoup, là, il est là tout le temps, il est dans toutes les réunions, il est dans l'avion tout le temps, enfin, il a pas une vie en dehors de ça.
Non.
Le problème, c'est que Trump se lasse très vite.
Ah oui.
Surtout des gens qui prennent la lumière plus que lui.
Mmh.
Donc, faut ça, pas oublier vrai. Qu'on n'est pas face à quelqu'un qui a la même logique que nous ou qu'un.
Ça va être difficile de se lasser de l'homme le plus riche du monde, quand même.
Ouais, enfin, il a
une puissance. C'est
il
le
lui a lâché
Twitter,
130 à 190 millions pour sa campagne. L'aide peut s'arrêter là.
Hein. Ouais, mais il faut pas oublier aussi. Je pense que Elon Musk est quand même quelqu'un de brillant. Moi, je j'aimerais attendre de voir ce qu'il va faire lorsqu'il va être nommé donc à ce poste de là. L'optimisation, il y a un truc comme ça.
L'optimisation du gouvernement.
En quelque sorte. Ouais, pour économiser 2000 milliards de dollars.
L'efficacité gouvernementale.
Voilà.
Voilà, c'est ça.
Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que c'est un poste auquel ils ont nommé deux personnes. Donc, dans l'ensemble, ça commence mal.
Oui, c'est vrai.
Et
oui.
En plus, il a annoncé une offre d'emploi où il dit si tu réussis tous les tests de QI, que tu sais travailler 80 heures par semaine,
tu peux être embauché.
Donc, en fait, c'est rajouter des effectifs.
Voilà, donc ils vont commencer par embaucher.
Voilà.
Comme disent les anglo-saxons, it's gonna get worse before it gets better. mais bon, on a du mal à y croire.
Mais bon, je suis impatient de voir comment ça va se passer.
Moi, je suis impatient de voir la commission sénatoriale qui va valider.
Oui, mais encore une fois, en mettant Starlink et en désinguant ce programme qui coûte des milliards,
qui est un peu le plan très haut débit français finalement, mais au niveau
absolument,
américain.
C'est l'équivalent du... Exactement, c'est la bonne référence. Le plan haut débit, ça coûte hyper cher et les contribuables sont sommés évidemment de débourser de leur poche. Et là, il va arriver avec les bonnes nouvelles. Il va dire, regardez ce que je fais économiser aux États-Unis, aux Américains.
Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en fin 2023, Brennan Carr avait déclaré ceci. Il suffit d'envoyer un bon d'achat de 600 euros à chaque Américain pour qu'il s'installe en fait une parabole Starlink pour qu'on règle le problème de l'internet au débit aux États-Unis. En fait,
c'est pragmatique. Il y a une question d'échelle peut-être qui tiendra ou qui tiendra pas.
Et autre information pour terminer là-dessus, il y a quelques mois, il avait dit qu'il fallait interdire TikTok aux États-Unis.
Ouais.
Alors là,
ça s'en va et ça revient. Là.
C'est intéressant parce que Donald Trump dit l'inverse. Donc, on va voir un peu comment tout ça.
Après avoir dit la même chose.
Après avoir dit évidemment la même chose. Donc, ça va être intéressant de suivre tout cela.
Intéressant et inquiétant.
Oui, intéressant parce que c'est un moment d'histoire qui va être incroyable
bien sûr.
Et inquiétant évidemment, on va voir.
Tant qu'on ne touche pas à la section 230.
Je suis d'accord avec Pascal qui dit que toutes les nominations qu'on a entendues cette semaine, ça ressemblait vraiment à du trolling.
Ah ouais, vraiment.
Quelqu'un qui vous dit ça en regardant dans le blanc des yeux en disant alors, qu'est-ce que t'en penses? La dernière rumeur qui était parue, évidemment sous caution, c'est que le prochain secrétaire au Trésor serait Brian Armstrong, le patron de Coinbase. Et c'est un peu tout fou. Enfin, c'est-à-dire que tout à coup, évidemment, tous les crypto bros, etc., sont en ébullition totale, pensent que ça y est, le monde va changer dès le week-end prochain. Enfin, bon, c'est une bonne nouvelle pour les chaînes d'infos.
Oui, bien sûr. Ouais. Dans l'actu, on revient en France avec une information. Alors, on évoquait beaucoup les télécoms, mais qui va avoir un impact sur les télécoms, surtout si vous êtes abonné à La Poste Mobile. 2,5 millions d'abonnés, hein, quand même, hein, pour ce MVNO, en quelque sorte, qui était auparavant hébergé chez SFR et qui s'en va chez Bouygues Télécom, ou plus précisément, Bouygues Télécom vient de s'offrir La Poste Mobile pour 950 millions d'euros. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si vous êtes client La Poste Mobile, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Vous allez passer d'un abonnement SFR à un abonnement Bouygues Télécom, c'est tout.
De manière transparente.
De manière totalement transparente, ça se fera dans 6 mois environ. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que malgré tout, le paysage des télécoms français n'est pas figé et que quand il y a des acquisitions possibles, eh bien, certains opérateurs se jettent dedans. On le voit, hein, Bouygues Télécom, qui est pas forcément en position très délicate. On l'a vu, ils ont été obligés de faire un plan très ambitieux pour revoir les tarifs, pour revoir les offres. Est-ce que vous avez vu la guerre qu'il y a en ce moment sur les abonnements mobiles? C'est terrible.
Je crois que ça tient à ça. C'est-à-dire que d'un coup, c'est pas tant les 2,5 millions d'abonnés. Alors, c'est vrai que ça permet à tout, à Bouygues Télécom de grossir et de se dire, à un moment, peut-être qu'on se reposera la question de savoir s'il faut repasser de 4 opérateurs à 3.
Ouais.
Mais en attendant, ce que Bouygues Télécom achète surtout, c'est la présence dans 7000 bureaux de poste.
Ouais.
À un moment où les gens, je le pense, alors, est-ce que ça se vérifie, c'est à voir, changent plus régulièrement de forfait devant justement des prix. Moi, je sais, je l'ai fait. Je passais d'un forfait chez l'opérateur historique qui me coûtait 35 euros, forfait chez Bouygues Télécom qui m'en coûte 12.
Et voilà.
12! Et qui fonctionne tout aussi bien.
Et t'as sans doute plus de gigas, et t'as de la 5G.
Augmenter, d'autres offres vont arriver, etc. Mais tout à coup, être présent au quotidien devant les gens au moment où ils se posent la question de changer d'opérateur, ouais, ça paye. Je pense que ça l'explique.
Bah, 7000 points de vente supplémentaires. Actuellement, Bouygues, c'est un peu plus de 500 points de vente dans toute la France.
Voilà,
tu arrives à 7000.
Ouais.
Donc, quelles conséquences déjà sur les points de vente de Bouygues? Ça, on verra par la suite. Mais en tout cas, ils décuplent leur force de frappe par rapport à leurs compétiteurs.
Après, ils ne peuvent vendre que des abonnements à La Poste Mobile
dans les
échoppes de La Poste. Ils ne peuvent pas vendre des abonnements BNU ou Bouygues Télécom.
Non.
Voilà.
Mais bon.
Mais ils vont adapter l'offre.
Bah oui.
Ils vont sans doute adapter l'offre.
Bah oui.
Alors évidemment, La Poste est toujours dans le coup, hein, et touche évidemment un pourcentage sur les abonnements, puisque ça reste la marque La Poste Mobile. Marion, sur ce sujet?
De toute façon, les acquisitions de base d'abonnés est toujours bonne à prendre. Hein. Je ne sais pas combien a coûté l'opération, mais en tout cas, c'est plutôt un bon coup de filet pour Bouygues Télécom. Je crois qu'ils faisaient 15% de part de marché il y a 2 ans. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais à peu près, j'imagine, voilà, ils n'ont pas fait un bond de x2 non plus. Donc 15%, c'est pas ridicule sur le marché français. Là où d'autres acteurs essayent d'aller voir ailleurs, avec notamment Free, qui va lui aller préempter des petits abonnés ailleurs en périphérie sur nos pays transfrontaliers. Xavier Niel a racheté l'opérateur ukrainien il y a pas très longtemps, donc on voit qu'il y a d'autres stratégies aussi pour aller acquérir de l'ARPU, comme on dit dans le monde des télécoms. Là, c'est 2,5 millions, c'est ça, d'abonnés?
Ouais, 2,5 millions.
C'est pas ridicule dans un marché qui est quand même assez
et puis derrière tout ça, je pense que la bataille pour devenir le second opérateur est en train de se jouer, parce que aujourd'hui Bouygues Télécom a quasiment 16 millions d'abonnés mobiles. Plus 2,5 millions, on est à 18,5. SFR est à peu près 20 millions. Et ils n'ont pas tout à fait la même dynamique, tous les deux. SFR perd des abonnés. Voilà. C'est triste pour le deuxième opérateur.
La motivation dans ce genre de cas, parce que on peut imaginer qu'il n'y avait pas que Bouygues Télécom sur les rangs, ou en tout cas que le dossier a fait le tour de tous les opérateurs. Donc c'est pas 2,5 millions, c'est 5 millions le solde.
Oui.
Parce que en rachetant La Poste Mobile,
tu en enlèves 2,5 millions.
Et ils empêchent quelqu'un d'autre de se rajouter 2,5 millions d'abonnés.
C'est ça, donc exactement.
Dans la balance, ça pèse aussi.
Exactement.
Moins d'un milliard, c'est une belle opération.
Et on pourrait arriver à un point de bascule où Bouygues pourrait doubler SFR et devenir le second opérateur mobile, ce qui serait quand même historique. politique pour, mm-hmm. pour
et se mettre un peu en sécurité justement le jour où les cartes seront rebattues.
Exactement. Tiens, est-ce que vous pensez qu'un jour les cartes seront rebattues? Tiens, pour, on dit ça pudiquement.
Ça fait que 15 ans qu'on en parle.
Ça. On dit ça pudiquement, mais ça veut dire que voilà, il y aurait un opérateur qui disparaîtrait.
Bah, on revient à la situation, enfin à ce qui se disait à une époque.
Oui.
4 opérateurs, c'est trop pour un pays comme la France. On va arriver à 3.
On verra.
Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on verra?
On est quand même sur une économie où je pense que les marges sont dans l'épaisseur du trèfle.
Ouais, ouais. Et la bataille, surtout, qui est âpre entre SFR et Bouygues. Hein.
C'est à moins que l'écosystème soit lui aussi disrupté par notre cher Elon Musk.
Exactement.
Avec le direct to cell, qui est la transmission, le backhauling
des
satellites, et avec des prix relativement bas, parce que le satellite, c'est quand même beaucoup trop cher. S'il arrive à faire ça, oui, ça mettra un peu le bazar dans l'écosystème français.
Moi, je suis d'accord avec Marion, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je le dis, les opérateurs télécoms voient Starlink comme une non-menace. Mmh, en fait, c'est une menace. C'est une menace, parce que je ne sais pas si vous avez suivi les dernières actus, mais il y a un ingénieur de chez Starlink qui avait publié un tweet en disant, ben voilà, je vous envoie un tweet depuis un réseau Starlink, je suis à l'intérieur, je suis chez moi. Donc, les gars,
avec
ils sont...
Avec le Wi-Fi, donc.
Non.
Ah, pardon.
Avec l'antenne Starlink qui arrivait à rentrer... Dans sa maison, en fait.
D'accord. Il était en zone blanche.
Il était en zone, je sais pas, mais en tout cas, il avait dû, ouais. il devait s'octroyer des accords pour être connecté sur le réseau 4G, 5G de Starlink. Il était à l'intérieur chez lui. Il envoyait un tweet.
Ouais.
Donc. Je suis opérateur télécom, je commence un petit peu à regarder le dossier, quoi, parce que franchement.
La seule barrière à ça pour l'instant, elle n'est pas encore sur le prix, parce qu'on ne connaît pas vraiment les offres directes ou celles que Starlink va lancer. Il a fait un test avec T-Mobile aux US cette année. C'est aussi la batterie des smartphones.
Oui, qui risque
d'être. Qui nécessite d'être réadaptée sur le transmission satellite.
Voilà, il faut beaucoup, beaucoup plus de satellites. Ce sera dans quelques années qu'on arrivera à faire quelque chose de correct, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a 5 000 satellites Starlink.
Presque 5 000, ouais.
Voilà, 5 000. Il en faudrait 3 ou 4 fois plus pour avoir une bonne couverture homogène partout et surtout plus de puissance pour que votre téléphone puisse recevoir ce signal.
C'est ça.
Mais tout ça est très intéressant. Est-ce que vous avez testé Gemini sur iPhone, les amis?
Nope.
Pas du tout.
Pascal, Gemini.
Pas encore.
Oh, mais attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Moi,
je me suis précipité sur l'appli Gemini sur mon iPhone quand j'ai vu ça.
Et alors?
Bah, parce que, franchement, je voulais comparer avec GPT Voice. Parce qu'on est d'accord que là, tout le monde se bat à armes égales. Mm-hmm. GPT Voice, Gemini Voice, en quelque sorte.
Ouais.
C'est pareil. Vous avez testé GPT Voice ou pas?
Bien sûr.
Bon, impressionnant.
C'est génial.
Incroyable. Je raconte à chaque fois cette histoire-là. On était aux États-Unis. J'arrivais pas à dormir parce que j'étais complètement jet-lagué. Et je demande à GPT Voice de me sortir un petit déj pour le lendemain à Nashville, parce qu'on était à Nashville. Il m'a sorti un super commentaire en me disant « Mais ouais, François, tu devrais aller là, c'est trop cool, c'est trop bon. Tu vas manger ça, les spécialités, etc. » Bon, je suis tombé dans le panneau. Et en plus, on y est allé, on s'est régalé. Donc c'était génial. Franchement, l'expérience de GPT qui essaie de vous convaincre d'aller dans un resto... Incroyable, à tester, vous allez voir, c'est fou. Et donc, la Gemini, je me suis dit, je vais lui poser la même chose. Bon, alors, je suis pas à Nashville, j'étais dans le 15e à Paris, mais il y a des restos dans le 15e.
Il y en a.
Eh ben, c'est pas la même histoire.
Ah bon?
Ça marche pas du tout de la même manière. Déjà, la voix, je trouve que la fluidité, elle n'est pas là. Il y a beaucoup plus de latence par rapport à GPT Voice. Mmh. Vous avez une ou deux secondes d'attente, alors que GPT Voice, c'est vraiment instantané. Et puis... c'était moins convaincant, il était un peu mou du genou, Gemini, voilà, il me proposait des restaurants, et à un moment il me propose un resto, mais qui était à 5 km de la zone où j'étais, alors je lui avais dit que j'étais dans tel quartier du 15e, je lui ai dit, mais non, là tu te trompes, c'est pas dans le... Ah oui, il me dit, ah oui, pardon, je me suis trompé, et après je lui dis, bah tiens, ce restaurant que tu viens de me citer, il est à combien? Il me dit, bah il est bien à 25 minutes de marche, il est de l'autre côté de la rue. Donc, on voit que, malgré toute la puissance de Google, qui a de la data phénoménale, enfin, mieux que Google peut vous dire à combien de mètres est votre téléphone,
combien de mètres est le restaurant.
Voilà où est le restaurant. Et ben, Gemini s'est planté. Ça ne marchait pas. Donc, c'est le début.
On n'y est pas.
On n'y est pas. Vraiment, sincèrement, on n'y est pas. Et on est vraiment très très loin de GPT Voice.
La question, c'est pourquoi ils ont sorti ce qui pourrait être ce que tu assimilerais à une version bêta, qui est imparfaite, en fait.
Bah parce que je pense que ils ont vu ce que faisait GPT Voice, ils se sont dit, il faut qu'on occupe le terrain avec quelque chose. Mais le problème, c'est que, à mon humble avis, ce quelque chose est moins bon que GPT Voice. Mmh.
Puis les bêtas, ça attise la curiosité. Hein. Faut se rappeler ChatGPT au début, c'était une bêta qui était balancée. Tout le monde, tout le monde essayait de la voir et tout le monde découvrait. Et ça a vraiment créé une espèce de mouvement avant même qu'une version finale arrive enfin. La bêta suffisait et puis était extraordinaire.
Elle a été largement entraînée.
Ah ouais.
Bon, écoutez, si vous voulez télécharger...
Google n'est pas habitué à se retrouver dans une position de suiveur.
Mais non.
Ils sont plutôt...
Et ça fait deux ans qu'ils suivent, là.
C'est-à-dire que là, c'est plutôt ça, leur modus operandi, c'est de sortir un truc imparfait au début, mais qui te laisse entrevoir ce qui va se passer.
En général, c'était les seuls.
Et puis, le problème, c'est qu'ils le font avant les autres. Donc là, ils sortent un produit moins bien après.
Ce que tu dis,
après.
C'est vrai, mais c'est le problème de tous les GAFA. Apple, pendant longtemps, a été le meneur de jeu, et puis se retrouve aussi maintenant...
Mais Apple est un peu délibéré dans sa façon de prendre son temps. C'est-à-dire, je te sors l'iPhone 16, je sais déjà exactement quand on commencera le 17. Alors peut-être que ça va changer, mais ils prennent leur temps. Google, ils prennent pas leur temps. Ils sont revenus de l'époque où il y avait 200 produits dans les Google Labs, etc., que personne n'utilisait. Mais voilà, je pense que là, ils sont contrariés.
Bon, en tout cas, testez. Hein. Peut-être que moi, j'ai une mauvaise expérience et peut-être que ça marchera mieux chez vous. Hein, si vous avez un iPhone, Gemini, pourquoi je dis iPhone ? Parce qu'évidemment, sur Android, vous l'avez depuis un moment.
Oui.
Voilà, vous êtes un possesseur d'Android. Puisque vous êtes dans l'univers Google, vous avez déjà Gemini. Marion, Cédric et Pascal, petite pause. Bientôt 20h30, on va revenir avec cette belle levée de fonds pour une space tech européenne, The Exploration Company. On parlera aussi de Xavier Niel qui appelle les startups IA européennes à ne pas vendre trop tôt. Et alors, le vieux serpent de mer, qui ressort, c'est Apple qui aurait mis encore sur les rails le projet de télé Apple. Voilà, ça fait quoi ? Ça fait 10 ans qu'on parle de ce sujet avec Cédric.
Pas plus.
Voilà, on remet une pièce dans le jukebox, hein ? Comme on dit. Allez, à tout de suite, après cette pause, on est de retour.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
On débrief l'actu tech jusqu'à 21h, comme chaque soir, sur BFM Business, dans Tech & Co, de 20h à 21h, avec ce soir, sur le plateau, Marion Moreau, Pascal Samama et Cédric Ingrand. Alors... Plein d'actualités, très intéressantes, avec peut-être pour débuter cette deuxième partie, cette levée de fonds de The Exploration Company qui poursuit en fait son projet de capsule spatiale européenne. J'avais eu la chance de rencontrer sa fondatrice il y a quelques mois de cela, c'était l'année dernière. Personnalité brillante, évidemment. Là, on est dans l'espace avec une vision qui fait toujours un peu rêver, quoi. Se dire comment on peut imaginer le transport par cargo spatial. On a l'impression ou d'être dans Tintin ou dans le prochain Alien. Et ben voilà, non, il y a des startups qui travaillent là-dessus. Comme il y a des startups qui travaillent sur des espèces d'habitations gonflables pour des planètes, méconnues. Mm-hmm. Et donc vous avez une espèce de fusée qui arrive, qui largue une espèce de grosse boîte, et cette boîte en fait se gonfle et crée 100, 200, 300 mètres carrés d'espace habitable, dépressurisé. Enfin, c'est un truc, c'est pas un ballon gonflable, quoi. C'est un truc de dingue. Et ben voilà, il y a des startups qui bossent là-dessus parce que il faut prévoir, il faut imaginer l'espace de demain. Et donc The Exploration Company vient de lever 150 millions d'euros. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette startup?
Ils avaient levé il y a près de deux ans déjà 40 millions d'euros, donc c'est pas des agneaux de l'année, mais ils s'attaquent en fait aux seules métriques qui comptent dans l'innovation spatiale pour l'instant, qui est le prix au kilo de ce qu'on lance dans l'espace. C'est exactement ce que Musk a fait aussi. En gros, pour faire baisser le prix de tout ce qu'on lance, satellites, etc., voire vol habité, il faut créer des choses, un, qui sont réutilisables, deux, dont les matériaux sont plus simples, bref, et puis surtout le faire dans une des structures qui sont pas forcément celles de j'ai envie de dire, l'espace à la papa, de la NASA, de l'ESA, etc., etc. Et d'ailleurs, eux se plaignent en disant, mais par exemple, l'Agence spatiale européenne a pas ou peu de projets dans les vols habités, beaucoup moins que ce qui se passe aux États-Unis. Donc il y a, voilà, c'est un peu comme dans le foot, tu vois, à un moment les joueurs peuvent changer d'équipe ou de ligue ou etc., etc. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a un réel enjeu, parce que c'est ça qui définit les télécoms de demain, plein de choses sur le commerce, plein de choses en termes évidemment de géopolitique. Donc c'est très important pour tout le monde. Et dans ce scénario-là, 150 millions, c'est pas grand-chose.
Voilà, le fret spatial. Alors, avant peut-être d'aller sur une planète, ce sera, je ne sais pas moi, un module qui partirait, une espèce de container spatial qui partirait de la Terre pour aller ravitailler
l'ISS
ou bien une sûr. Prochaine station spatiale. C'est déjà ça.
Une station lunaire, ouais.
Une station, et après évidemment, la prochaine étape, c'est d'arriver sur la Lune. Et après, évidemment, si on suit le fantasme d'Elon Musk, ça serait Mars. Je trouve que ce sont des sujets fascinants. Il faut savoir que c'est une boîte qui, ramène de l'argent. Hein. Ils ont ramené 800 millions d'euros déjà de contrats. Donc c'est pas des rigolos. Hein. Il y a déjà des boîtes qui s'intéressent à ce qu'ils font. The Exploration Company, donc boîte franco-allemande, et sa patronne est française.
Je pense qu'il faut que tu la réinvites.
Il faut que je la réinvite. Marion, l'espace, sujet qui te
fascine. C'est passionnant. Oui, c'est passionnant l'espace, mais après c'est un terrain un terrain dérégulé pour l'instant, que je regarde plutôt sur l'aspect géopolitique, tension, expérimentation à la frontière de la compétition malsaine des États qui s'affrontent sur d'autres sujets plus terrestres. Mm-hmm. Donc oui, c'est bien. Non, mais je pense que effectivement c'est une innovation, on va dire scientifique, à voir quels sont les vrais use cases qui vont demain se pouvoir être projetables, parce que c'est vrai qu'à ce prix-là, on se dit bon, finalement finalement le tourisme spatial c'est pour demain matin, mais en fait peut-être pas quand même. Il y a encore un peu de marge entre les rêves d'Elon Musk et la réalité. La réalité.
Mais finalement, Pascal, je te donne la parole dans un instant. Mais quand on voit qu'Elon Musk va avoir on va pouvoir appuyer sur certains boutons du gouvernement et qui va sans doute faciliter l'exploration spatiale et pousser, on va dire, l'innovation spatiale. Est-ce que ça peut pas être aussi une opportunité phénoménale et formidable pour une start-up? Clairement. Même européenne.
Bien sûr.
C'est ça la question.
Non, les deux signaux qui sont envoyés, qui sont positifs, c'est que, un, la France et l'Allemagne peuvent conjointement investir dans une boîte qui peut devenir, qui fait déjà du chiffre d'affaires, et comme tu le dis, et qui démontre aussi, au lendemain du lanceur de propulsion d'Elon Musk au Texas, c'était quand même incroyable, cette fusée, tu sais, là, le propulseur qui revient à sa base. Enfin, ça a quand même marqué aussi la campagne d'ailleurs électorale de Donald Trump et son MAGA. Là, il faut montrer aussi des choses. Je pense que tu as raison sur l'aspect démonstration. Il faut montrer qu'en Europe, on innove aussi. C'est pas la même chose, mais on fait une petite démonstration de force aussi.
Donc, je le disais, 800 millions de contrats signés, un contrat avec l'Agence spatiale européenne, l'ESA, mais aussi, c'est ça qui est intéressant, 5 contrats privés avec des stations spatiales américaines. Donc, voilà, les États-Unis sont intéressés par cette innovation européenne, Pascal.
Moi, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est l'effet Elon Musk. Elon Musk, c'est un personnage dual, double. Il y a des côtés très négatifs, il y a des côtés très positifs. Et dans les côtés très positifs, en fait, j'ai l'impression que ce qu'il a amené, c'est réellement montrer qu'il était possible pour des startups de s'imposer dans le domaine spatial, ce qui était un domaine réservé aux États. Hein. C'était la NASA ou en Europe l'ESA qui dominait tous ces projets et qui finissait par pas avoir assez de moyens et d'imagination aussi, peut-être aussi, pour développer des choses. Elon Musk, avec SpaceX, il a démontré qu'en quelques années, c'était inimaginable. Il faut quand même se rappeler qu'au moment où il s'est lancé, tout le monde se moquait de lui en disant que son projet n'arriverait jamais à terme. Il l'a mené à terme en combien d'années ? 5-6 ans à peine. C'est exceptionnel dans le domaine du spatial. Et aujourd'hui, ce qu'il a réussi à montrer, c'est libérer les esprits et que des start-up peuvent aujourd'hui se développer dans le spatial, passer des contrats avec des États et réussir là où les États n'auraient pas pu avoir ni les financements, ni les idées, ni les cerveaux pour aller aussi loin. Une petite équipe va bien plus loin qu'une grosse structure.
Non, on a raison d'être sévère avec Musk, mais il faut être juste.
Exactement.
Quand j'entends des gens qui vous disent, ouais, de toute façon, Musk, il a rien fait.
Si.
Tout ça, c'est des contrats publics. Oui, alors attendez. Il a fait un truc tellement compliqué, tellement facile que personne ne l'avait fait jusque-là.
On peut tout reprocher à Musk.
Ouais, ouais.
C'est sorti sur Twitter, etc. Mais
ah,
c'est un génie.
Terrible.
Enfin, je veux dire.
Oui, c'est un génie.
Il aura marqué le 21e siècle.
Sûr.
Je veux dire, c'est incroyable.
Mais dans le spatial, il a été très malin parce que tout a quand même démarré par sa compréhension de l'establishment. C'est un peu le même sujet d'ailleurs en Europe. Hein. Il y a beaucoup de gens qui reprochent à Aerospace ou c'est Ariane Espace, toute l'industrie du spatial d'être très lente, d'être trop lente, d'être complètement bureaucratique. En fait, c'est pas tout à fait le cas. Quand on regarde à l'ESA, ça fait un paquet d'années qu'ils ont offert aux startups la capacité d'être un incubateur et c'est assez remarquable. En revanche, ce que Musk a compris, si on regarde bien son histoire, c'est qu'il s'est assis au board, justement, de la NASA. Il a pris un siège. Il y a un paquet d'années de ça, hein. On parle de ça, c'est il y a plus de 15 ans. Et en fait, il s'est assis à côté des autres. Par contre, là où il a été bon, c'est qu'il a mis un coup de pied dans la table. Et c'est ça, effectivement, son talent. C'est de dire, on va faire autrement, on va regarder les choses différemment et on va beaucoup travailler. Parce que ce qu'il faut pas lui reprocher, c'est d'être un bosseur. C'est quelqu'un qui travaille énormément.
Bon, écoutez, on verra bien. Là encore, janvier prochain risque d'être passionnant. Et en tout cas, bravo à cette Startup The Explanation Company et à sa patronne Hélène Ruby, donc startup franco-allemande, mais dirigée par une Française qu'on va essayer de recevoir très bientôt dans Tech & Co. Tiens, on passe à un autre, chef d'entreprise français talentueux, qu'on aime beaucoup, c'est Xavier Niel. Xavier Niel qui a fait la une d'un article sur le Financial Times, où il positionne un petit peu l'intelligence artificielle et l'innovation technologique au niveau européen. C'est son rôle. Xavier Niel, moi, ce que j'aime beaucoup chez ce personnage, c'est qu'il est souvent très optimiste. Et c'est vrai. Et ça fait du bien dans ce monde où on est tout le temps en train de dire qu'on est cuit, etc., etc. Et lui dit qu'on a une vraie carte à jouer dans le monde de l'intelligence artificielle générative. Il suffit de regarder ce qu'il fait avec Qtie et avec Mochi, son large language vocal. Il parle aussi de Mistral. Beaucoup en disant que voilà, c'est si on a sans doute une pépite européenne de l'intelligence artificielle, c'est bien Mistral qui peut être concurrencé, en tout cas mettre au même niveau que des géants de l'intelligence artificielle américaine. Donc ça, c'est plutôt cool. En revanche, Xavier Niel nous met en garde notamment Mistral, de céder aux sirènes des investisseurs américains et de vouloir peut-être ou de céder à la tentation de se faire racheter par une boîte américaine. Et il dit ceci, faites attention, parce que si une boîte américaine vous achète, ça veut dire que vous valez au moins deux ou trois fois le prix que la boîte vous rachète. Voilà. Donc, petite mise en garde pour essayer de garder quand même une certaine souveraineté dans ce domaine.
Il y a trop d'argent, en fait. Il y a presque trop d'argent. C'est-à-dire que les gens surinvestissent dans des projets. Tout le monde a peur de rater le coche, en fait. Comme à chaque fois, comme à chaque moment où t'as une révolution technologique qui part comme un club de hockey, tu vois. Et du coup, des anglo-saxons, tu dirais, it's good money after bad. C'est-à-dire que, voilà, il faut investir. Donc j'imagine évidemment que des gens comme Arthur Mensch doivent recevoir des offres absolument mirobolantes pour les intégrer soit dans un grand groupe, soit pour les racheter par des fonds de private equity. Enfin, ça doit être terrible et c'est difficile d'y résister parce que on se souvient quand on a eu de grandes gloires passées, souvenez-vous Deezer, Dailymotion et les autres où ils recevaient des offres, ils les refusaient, on leur disait mais comment peux-tu refuser 100 millions d'euros? Ça c'était avant, là on parle plus en millions d'euros, on parle évidemment en milliards. Mais c'est difficile d'y résister. Le problème c'est évidemment que si les quelques pépites qu'on a et si l'essentiel des très bons chercheurs qu'on forme partent à l'étranger, comment est-ce qu'on va créer la nouvelle génération des startups de l'IA chez nous? Donc, je suis d'accord avec Xavier Niel. Il faut résister, même si ça doit être vraiment, vraiment difficile.
Compliqué. Après, c'est amusant parce que vous avez plein d'ingénieurs hyper talentueux qui quittent les États-Unis et qui viennent en France. Voilà. Alors, par conviction, par patriotisme, je ne sais pas, peut-être parce qu'ils en ont marre aussi de la vie américaine et parce qu'ils sont riches aussi et qu'ils ont envie de se lancer dans une nouvelle carrière. Mais vous prenez par exemple Qtie, il y a quelques ingénieurs qui étaient hyper capés, qui travaillaient chez Facebook ou chez Google, qui sont venus en France.
Oui, alors il y a d'autres raisons à ça. Il y a aussi le fait, si on regarde par exemple Google DeepMind, qui est quand même, on va dire, l'entreprise de recherche fondamentale sur l'IA, parce qu'il faut bien séparer la recherche fondamentale de la recherche applicative.
Et l'origine de tout.
À la Gemini, par exemple.
Si ChatGPT existe, c'est grâce à DeepMind.
C'est grâce à DeepMind, et DeepMind a une longue histoire qui est passionnante. Je vous invite à regarder, ou celles et ceux qui nous regardent, Le Continent, qui retrace le parcours de Assabi, celui qui a co-gagné le prix Nobel de chimie cette année, non pas de physique d'ailleurs, de chimie sur AlphaFold, qui est le moteur d'IA dédié à la biologie moléculaire. Et avec qui DeepMind AlphaFold a développé ces recherches inédites qui sont jamais connues dans l'histoire de la recherche moléculaire, et des chercheurs avec qui j'ai discuté, bah c'est que tout simplement les meilleurs centres de données se trouvent en Europe, et donc à Londres, et ou en Allemagne, ou en Autriche, où est le MBL, qui est le fameux laboratoire mondial qui dispose de la plus grande base de données connue sur l'ADN de l'humain, du vivant. Et ça, la recherche fondamentale, elle a besoin d'être très proche, comme tout écosystème qui se porte bien, elle a besoin d'être proche de la donnée, et la donnée qui est enrichie, qui est qualifiée, qui est historique, qui est empirique. Et donc cette recherche scientifique va très bien avec des startups comme Google DeepMind, qui a conservé ses têtes pensantes à Londres. Et c'est aussi pour ça que Xavier Niel lance un message, je pense. C'est attention, il y a une compétition aussi de villes qui se joue entre Londres et Paris. Paris met le paquet, hein. Emmanuel Macron soutient oui. complètement cet écosystème, et on est à une échelle, on va dire, de d'intérêt qui est d'intérêt national.
Avec le sommet de l'IA. Hein,
avec le sommet de février qui va avoir lieu.
Prochain.
AI Action Summit. Et donc, il faut pas passer à côté. Il faut surtout pas, c'est ce que dit Xavier Niel dans le Financial Times, il faut pas ralentir l'Europe dans sa volonté d'aller en compétition en direct, en frontal avec les États-Unis ou la Chine.
Pascal.
Et Xavier Niel, il soulève aussi une dernière chose, c'est que les cerveaux sont souvent en Europe. Hein. Les Américains ont l'argent, mais beaucoup de technologies, et surtout les cerveaux, sont pas seulement en Europe, mais ils sont aussi en France. Il faut continuer à développer, faut pas courir pour quelques milliards. C'est dur de dire ça, j'imagine qu'on est une start-up, qu'on s'est investi, que... L'enjeu, il est bien plus important, il sera bien plus fructueux en attendant un petit peu. Faut vraiment laisser faire les choses, faut pas s'impatienter.
Voilà. En tout cas, si vous êtes intéressé par la personnalité de Xavier Niel, je vous invite à lire cet article très intéressant sur voilà, en plus c'est pas un journal français, donc on a toujours une vision un peu moins jolie de ce qu'on fait, et ça fait du bien de temps en temps. Messieurs, dames, il reste 10 minutes. J'aimerais quand même qu'on attaque un autre sujet. Alors cette fois-ci, plus grand public, plus mainstream, mais qui traîne depuis de nombreuses années, c'est Apple et la télé. Alors, Apple et la télé, il existe quand même pas mal de choses, parce que Apple produit des séries et des films pour la télévision. Ça c'est le cas depuis quelques années. Apple a un petit boîtier qui se vend comme des petits pains, qui est l'Apple TV, qui est bien pratique. Hein. Je sais pas si vous avez testé ce petit truc, mais quand vous avez goûté à l'Apple TV, c'est compliqué de revenir à une télé connectée. Hein. Franchement, c'est le top. Mais il manquait, on va dire, une belle télé Apple, avec un écran, le petit logo comme ça, avec un système d'exploitation qui ressemblerait peut-être à l'Apple TV. Ça a été, on va dire, dans l'histoire d'Apple depuis de très nombreuses années, avec Cédric, on a suivi l'actualité
l'Arlésienne.
Apple depuis de très nombreuses années. Il y avait deux sujets dont on était sûr que ça allait sortir, la voiture Apple et la télé Apple. Bah, les deux ne sont jamais sortis, sauf que là...
Pourtant, on sait qu'ils ont travaillé dessus, c'était pas une chimère.
Ah non, bien sûr. Ouais. Et ils se sont même rapprochés de certains industriels de l'électronique pour...
Coréens, avec des logos rouges, tout ça.
Exactement.
Très K-pop, tout ça.
Et donc, voilà que le sujet de la télé Apple revient sur le tapis. Cédric.
Moi, je sais pas, ça rouvre une vieille blessure de guerre quand même, hein, dans l'ensemble. C'est-à-dire que.
Elle qui ne s'était pas cicatrisée.
J'y ai cru, non, qui se rouvre là. Mais j'y ai cru pendant tellement longtemps. J'ai voulu y croire pendant tellement longtemps. Tout simplement parce que t'as envie d'y croire. T'es à un moment où, à l'époque, la baston, c'était entre Samsung et LG Sony. Ça n'a pas beaucoup changé, sinon maintenant, il y a quand même beaucoup de Chinois dans le jeu. Et on se disait, vient la question. On se posait tous la même. On se disait, qu'est-ce qu'Apple va faire de mieux? Qu'est-ce qu'Apple va faire de différent? Et donc, quand à la fois, on a vu que la télé sortait pas, mais qu'on n'avait pas rêvé, parce que c'est dans la bio de Steve Jobs. Jobs en parle à Walter Isaacson en disant ça y est, j'ai craqué le code, j'ai trouvé le truc qui va faire que la télé machin, et rien ne sort. Imagine la déception, c'est pire que tout, quoi.
Surtout quand Steve le dit, quoi.
Ben voilà. Et en fait, ça nous a forcé tous à retomber sur terre et à se dire où serait la valeur ajoutée d'un Apple dans la télé. Quoi, faire une télé qui a déjà l'interface du boîtier Apple TV? Ok, je préfère changer de boîtier Apple TV tous les 3-4 ans pour avoir le dernier, le truc,
oui,
plus rapide, etc.
Que la télé.
Alors ça veut dire quoi? Inventer une nouvelle technologie d'affichage là, pour le truc. C'est arriver à dépasser des Samsung, des LG qui investissent des milliards et des milliards et des milliards.
Impossible.
Et qui étaient de toute façon et qui sont encore aujourd'hui l'état de l'art absolu. C'est difficile à imaginer.
Ou alors surtout, ils achètent une technologie exclusive à LG ou Samsung. Ce qu'ils ont déjà fait. Hein.
Qui du coup perdraient leur ouais, leadership, tu sais, technologique. Difficile à imaginer.
Tu prends les écrans d'iPhone, la plupart des spécialistes des écrans disent que, alors c'est des écrans Samsung, mais ils sont meilleurs que la plupart des écrans Samsung, parce que Apple, en fait, va sourcer les composants, mmh. Il va avoir un cahier des charges imposé pour Samsung qui est tellement élevé qu'il est meilleur, en fait, que les écrans sont meilleurs que ceux de Samsung.
Ouais.
Donc on pourrait imaginer un truc comme ça, tu vois.
Surtout, c'est pas ça. C'est pas un marché. Enfin, et à un moment, on retombe sur terre, on se dit, c'est pas un marché pour Apple. Pourquoi? Parce que ça, tu peux. À l'époque, on en changeait tous les 18 mois, c'était la moyenne. Aujourd'hui, on en change quand même plutôt tous les 2, 3, 4 ans, etc. C'est plus raisonnable. Ta télé, tu en changes tous les 8 ans. C'est un truc qui est un peu moins intéressant en termes de renouvellement. Et puis surtout, le marché du téléviseur, je parle pas de la télévision générale, c'est un marché où les marges sont minuscules, ils se battent comme des chiffonniers pour faire 2%, 3%. Il y a tout un problème de distribution, des choses que Apple aurait pu gérer, mais on ne voit pas où Apple pourrait faire. Évidemment, je suis sûr que le design serait magnifique, etc. Bon, ok, super. Mais est-ce que tu vas sortir une télé à 3000 euros là où les autres sont à 800? C'est compliqué. Je ne vois pas où ils pourraient faire mieux, mais j'ai tellement envie d'avoir tort.
Moi, je pense que tu peux avoir tort.
Mais oui.
Parce que c'est exactement les arguments que je donnais en 2007, avant 2007, avant la sortie de l'iPhone, en disant, mais qu'est-ce qu'Apple va aller sur un marché où il y a des géants, où il y a des Nokia, des Sony Ericsson, des gens qui maîtrisent tout. Apple.
Des BlackBerry.
Ouais, des BlackBerry. Mais exactement.
Évidemment.
C'était tellement fou comme projet. Et puis, il faut se rappeler que mener des projets fous, quand même, c'est le message qu'a lancé Steve Jobs. Soyez fous. Ça fait quand même quelques années.
Enfin, Apple est un peu moins fou.
Fou hein,
c'est exactement ce que j'allais dire. Ça fait quelques années qu'Apple est de moins en moins. C'est pas une boîte qui fait rêver. C'est pas une boîte d'innovation. C'est une boîte commerciale qui fait du succès, qui fait de l'argent, qui innove. Mais il n'y a pas l'innovation
C'est le dilemme de l'innovateur.
Et si Apple revenait avec un projet aussi fou que de faire une télé? Alors,
à une époque où les gens en achètent de moins en moins. Je vais quand même remettre ça dans un contexte commercial. C'est pas Apple qui va relancer le marché du téléviseur. Enfin, on a envie d'y croire, mais les jeunes générations se foutent éperdument de la taille de l'écran, regardent leur iPad dans leur lit. Enfin, tu vois, c'est comme.
Alors, avant de donner la parole à Marion, quand on foirefouille un petit peu les propos de Mark Gurman, qui a balancé encore cette news, comme d'habitude, il y a quand même une stratégie, c'est-à-dire qu'Apple, vous le savez, est en train de lancer une nouvelle verticale de la maison connectée, avec sans doute une caméra connectée qui va sortir, sans doute une espèce d'iPad qu'on pourrait accrocher à un mur avec un bras, qui pourrait être un peu comme un Echo Show, vous savez, cet écran qui répond à la voix qu'il y a chez Amazon, donc on pourrait imaginer un appareil comme ça, et Apple dit si on voit que ces produits marchent bien, alors à ce moment-là, on pourrait lancer une télé parce que ça compléterait en quelque sorte notre écosystème de maisons connectées. Mmh. Et il y a d'autres paramètres en jeu. C'est que on a eu le Covid, et autant avant le Covid, la télé était en désamour total, et puis après le Covid est passé par là, et on s'est rendu compte que la télévision avait quand même encore un sens à la maison, et même si on vend moins de télé, on en vend quand même pas mal. C'est un gros marché, finalement, que se disputent les Samsung, il y a LG aussi,
Sony,
les Chinois, TCL, etc. Et Apple doit se dire, finalement, moi, je ne vais pas vendre une télé à 1000 balles, c'est sûr, mais à 2000 balles, peut-être que je vais pouvoir en vendre quand même des wagons entiers, quoi. Parce que c'est Apple, parce qu'il y aura peut-être un écosystème chouchouté, peut-être qu'il y aura des interactions avec tout l'écosystème Apple qui permettrait.
Il n'y aura plus de télécommande.
Plus de télécommande. Enfin, tu vois,
sur le petit boîtier qu'on voit derrière toi. Ça.
Ouais, mais peut-être qu'ils vont pouvoir aller plus loin. Peut-être qu'ils pourront aller encore plus loin avec une télé.
Maintenant, tu l'as rêvé, Apple va le faire.
J'ai été blessé une fois.
Marion.
Soit c'est une excellente nouvelle, parce qu'effectivement, tu as raison, c'est complètement cohérent dans la logique de maison connectée, de domotique, sur lequel il y a quand même encore beaucoup de business à trouver. Il y a des leviers intéressants. D'ailleurs, même les opérateurs français regardent ça de très très près. Mais soit c'est une mauvaise nouvelle, et c'est effectivement, sur un marché où on fait de faibles marges, c'est une façon de dire, bon, on va essayer de trouver un petit peu de croissance sur du hardware, et on verra ce que ça donne, mais c'est l'un ou l'autre.
Moi, hein. Cédric, tu mettrais, allez, un billet là-dessus ou pas?
Je sais pas. Je sais même pas. Est-ce que c'est quoi mon prochain téléviseur? C'est une vraie question. Mais
oui, on ne sait pas quand est-ce.
Peut-être que c'est un projecteur en fait. Tiens, c'est rigolo qu'il fasse un projecteur.
Un projecteur.
Ça, ce serait disruptif.
Oui. Ouais,
c'est voilà. Sûr. Mais le marché est plus petit.
Bah oui. Donc c'est compliqué. Mais il faut qu'ils trouvent des relais de croissance au moment où le marché de l'iPhone se tasse. Ils sont difficiles de plaindre un peu.
Il y a une bonne réseau quand même.
C'est vrai que quand on se projette, on se dit ok, tout va bien, mais c'est quoi la suite?
Mais what's next?
Et surtout, comment ils vont gérer, je reviens à mes histoires de géopolitique, la supply chain, parce qu'on vit quand même dans un monde où aujourd'hui certains pays sont soumis à des sanctions, je pense notamment à la Chine, où Apple vend encore quand même, hein, ils ont quelques stores là-bas, et surtout ils ont dû relocaliser, faire un peu copain-copain avec les pays à côté, le Vietnam, la Malaisie, pour aller installer des Foxconn, etc. Donc il y a quand même une crise derrière potentielle de la supply chain. Moi, je relis quand même ça directement au hardware, et je ne sais pas, j'ai pas d'hypothèse là-dessus, mais c'est certain quand même qu'Apple doit aussi jouer de ça dans un monde qui est un monde de de-risking, qui est compliqué.
Après, je me dis, bon, évidemment, Apple parle beaucoup d'Apple Intelligence. Qu'est-ce que pourra apporter cette IA sur une télévision?
Est-ce que ça plus compliqué, parce que ton téléphone, c'est ton téléphone, la télé, c'est celle de la famille.
Oui. Mais aujourd'hui, on peut imaginer que les voix seraient reconnues automatiquement. On peut imaginer des capteurs qui détecteraient qui pourrait être devant la télé. Enfin, voilà, je me dis, là encore. Évidemment, il y aura de l'intelligence artificielle dans cette télé, mais à quoi ça servirait, quoi? Qu'est-ce que ça pourra apporter comme fonctionnalité waouh qui te ferait dire, finalement, entre une Samsung et une Apple, je vais payer plus cher, mais je vais me prendre une Apple. Ça va être intéressant de voir tout ça.
Ouais. Nourrir l'OS d'Apple, comme tu le dis. Moi, je pense que ta vision est la bonne sur le fait de créer, de renforcer leur écosystème propriétaire.
Oui,
sur et d'enrichir leur futur IA à partir des données de leur OS.
Ouais. Il faut se rappeler 2007, quand l'iPhone est arrivé, on se disait, mais qu'est-ce qu'Apple va apporter de plus à tous les téléphones qu'on a? Et la première fois qu'on a tous vu, rappelez-vous quand même, qu'on a vu un iPhone, le premier, hein.
Oui, c'était évident.
On s'est dit, waouh, ils ont gagné.
Tu t'en souviens, hein?
Ah oui. C'est Olivier Frigara qui l'a ramené à la rédaction.
Il l'a ramené, ouais. Et moi, avec mon pote Jérôme Colombin, on en avait ramené un aussi. On était les stars de l'univers avec cet iPhone qu'on n'arrivait pas à faire fonctionner à l'époque parce qu'il était bloqué.
Oui. AT&T.
Même avec une puce orange, ça marchait pas. Il fallait le jailbreaker. J'avais craqué. J'étais comme ça, tout tremblant, parce que on lisait sur Internet qu'on pouvait aussi le briquer, donc le casser définitivement. Donc et puis j'étais arrivé. C'était quand même incroyable. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci Marion.
Merci François.
Marion Moreau, donc journaliste et fondatrice d'Ornord Media. Merci à Cédric Ingrand, directeur général de Heavyweight Studio, ancien journaliste chez LCI. Et merci beaucoup Pascal. Tu vas nous manquer, Pascal.
Je te quitte pas de beaucoup, de très loin.
Non,
de...
mais bon, pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, une page se tourne pour Tech & Co et pour toute la plateforme Tech & Co, puisque tu vas quitter ce média.
T'es le premier à le dire officiellement. Hein.
J'ai le droit ou pas?
Ah oui, bien sûr.
Eh bien voilà. Ouais. Non, mais je voulais te le dire parce que effectivement, ça fait de très nombreuses années qu'on se suit et c'est un peu émouvant. Mais cela dit, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Voilà, éclate-toi.
Bravo Pascal.
Voilà. Et 2007, l'iPhone, c'est grâce à lui que Steve Jobs a sorti l'iPhone.
On l'applaudit.
C'est grâce à Pascal Samama.
Nous ne saurions rien.
Ah, j'y croyais pas une seconde. Non, j'y croyais pas.
Plein de bonnes choses, Pascal. Et tu reviens quand tu veux, bien évidemment.